Vous écoutez, on lit pour vous.
La députée du Nunavut mène un débat sur la violence policière envers les Autochtones. Un texte de Radio-Canada, avec les informations de Brett Forrester, paru le 17 septembre 2024 sur Ici Grand Nord. La députée néo-démocrate du Nunavut, Lori Idlout, a profité du premier jour de la session d'automne à Ottawa pour demander que la Chambre des communes se penche sur 6 décès récents d'Autochtones aux mains des forces de l'ordre lors d'un débat d'urgence qui s'est terminé tard dans la nuit. Les députés ont décrit ces morts comme un rappel tragique de l'histoire du colonialisme et du racisme systémique au pays. Pour Lori Idlout, la question n'est pas seulement de savoir si ces problèmes existent, mais plutôt ce que compte faire le législateur pour les résoudre. Dans une lettre au président de la Chambre, la députée a évoqué l'importance de discuter de mesures immédiates qui peuvent être prises pour sauver des vies autochtones dès maintenant. Elle est la première à avoir pris la parole, mentionnant aux députés que le colonialisme et les politiques génocidaires du Canada ne sont pas seulement choses du passé. Citation : Ces politiques génocidaires et les attitudes coloniales que nous observons sont systémiques. Nous les observons partout au Canada. Fin de citation, a-t-elle dit. Le député néo-démocrate de Timmins Bay James, Charlie Angus, a aussi pris la parole pour décrire des incidents de violence survenus dans sa circonscription. Il a ensuite mentionné que la Gendarmerie royale du Canada n'est pas comme des bureaucrates qui veillent à notre sécurité, comme on le lui a enseigné, mais plutôt les troupes de choc pour forcer la prise de possession des terres autochtones. Citation : Il y a un terme, et je ne le connais pas, car je ne parle pas ou j'écris, mais une femme m'a dit que le terme pour « police » est « ceux qui prennent nos enfants ». Fin de citation, a ajouté Charlie Angus. Citation : Ils n'appellent pas la police, car ils n'ont pas confiance en elle. C'est la honte d'un Canada colonial qui a entraîné la mort de 6 de nos jeunes. Fin de citation. Les 6 décès, survenus entre le 29 août et le 8 septembre, impliquent la GRC et des corps policiers municipaux dans 5 provinces. Ces incidents font actuellement l'objet d'enquêtes. Les libéraux critiqués. Ces morts rappellent la série d'arrestations et de violences policières qui ont suscité une vague d'indignation nationale en 2020. Le premier ministre Justin Trudeau avait promis des réformes à l'époque, dont une loi visant à améliorer le financement et la fiabilité des services de police des Premières Nations. Son parti a essuyé de vives critiques lundi en raison de l'absence de résultats. Citation : À ce que je sache, aucune loi n'a été proposée, malgré la déclaration de l'ancien ministre de la Sécurité publique affirmant que c'était sa priorité. C'était en 2022, a mentionné la députée conservatrice de Kildonan-St. Paul à Winnipeg, Raquel Dunshaw. Le député Jamie Schmall, critique du Parti conservateur en matière de services aux Autochtones et de relations couronne-autochtones, a cité les conclusions de la vérificatrice générale du Canada, publiées plus tôt cette année, selon lesquelles le gouvernement gère mal le programme de police des Premières Nations et des Inuits. Il a dénoncé le sous-financement chronique des programmes de police des Premières Nations et a ajouté que les initiatives de police autochtones devraient donner la priorité aux approches de justice réparatrice. Les libéraux sur la défense ont souligné les progrès réalisés, les initiatives en cours, les engagements et les propositions de réforme. La députée libérale Jennifer O'Connell, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique, a dit que le gouvernement demeure engagé à travailler en collaboration avec les Premières Nations, comme en font foi les millions de dollars investis dans le programme de police des Premières Nations par les libéraux depuis 2021. Elle a également souligné l'importance et l'urgence de la proposition de loi visant à créer un nouvel organisme de plainte du public pour la GRC et l'Agence des services frontaliers du Canada, ASFC. C'était « La députée du Nunavut mène un débat sur la violence policière envers les Autochtones », un texte de Radio-Canada avec les informations de Brett Forrester, paru le 17 septembre 2024 sur Ici Grand Nord.
Abus sexuels, le tribunal accorde plus de 9 millions aux victimes du diocèse d'Amos. Un texte de Gabriel Poirier, paru le 17 septembre 2024 sur Ici Abitibi-Témiscamingue. Les personnes qui ont été agressées depuis 1940 par des prêtres et des préposés laïcs du diocèse d'Amos toucheront 9 375 000 $ en dédommagement. C'est ce que confirme l'entente de règlement conclue avec le diocèse et finalement approuvée par la Cour supérieure. Les victimes qui aimeraient déposer une réclamation disposent de 90 jours pour se manifester. En mai dernier, 54 personnes étaient déjà inscrites au recours collectif mené par AB, dont l'identité est protégée par une ordonnance de la Cour. L'avocat Justin Huy, associé chez Arsenault Dufresne Huy Avocat, soutenait à l'époque qu'une dizaine de personnes pourraient s'ajouter à la liste des victimes. L'entente avec le diocèse d'Amos a été soumise pour approbation à la Cour supérieure en mars dernier. Le règlement exclut les victimes de prêtres religieux appartenant à une congrégation religieuse. Ce sont les ordonnés diocésains, comme les évêques, prêtres et diacres, qui sont ici visés. Maître Huy soutenait en mai que les victimes pourraient recevoir entre 140 000 $ et 170 000 $ chacune, une fois les honoraires et autres frais prélevés. Souffrance inutile. Le vicaire général du diocèse d'Amos, Raymond Martel, se réjouit de l'approbation de l'entente. Il juge qu'il était important d'en venir à un règlement pour éviter des délais indus aux victimes. Celles qui se présentent sont d'un certain âge, rappelle-t-il. Éventuellement, les victimes pourront recevoir les indemnités qui apporteront un peu de baume dans ce qu'elles ont vécu de difficile et les aider dans la guérison. C'est ce qu'on souhaite pour chacune d'elles. Questionné au sujet du nombre de victimes inscrites au recours et d'autres cas potentiels, le vicaire Martel admet qu'il ne serait pas étonné s'il y avait de nouvelles dénonciations ailleurs au Québec. « Je n'ai pas une boule de cristal avec moi, mais plus rien ne m'étonne maintenant. Là où il y a des êtres humains, il y a toujours les fragilités des êtres humains qui sont là. Il ne faut peut-être pas être étonné, mais c'est malheureux, car il y a toujours des gens qui souffrent. C'est le plus triste dans une affaire comme ça. » Maître Justin Huy n'avait pas donné suite à notre demande d'entrevue au moment de publier ces lignes. C'était « Abus sexuels, le tribunal accorde plus de 9 millions aux victimes du diocèse d'Amos », un texte de Gabriel Poirier, paru le 17 septembre 2024 sur Ici Abitibi-Témiscamingue.
Voici les lauréats-lauréates qui seront honorés au gala Émergence. Un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 24 septembre 2024 dans le magazine Fugue. Fidèle à son habitude, le gala Émergence viendra cette année non seulement souligner le travail de longue haleine de l'organisme et faciliter le réseautage, mais aussi décerner des prix à des personnes et organismes qui se sont largement démarqués dans leur implication pour les personnes LGBTQ+. Et pour cette 22e remise de prix de la Fondation Émergence, le palmarès des lauréats est encore très bien garni. Le gala Émergence, qui est habituellement en lieu au début de l'été, a été déplacé à l'automne afin de donner plus de latitude à l'équipe de la Fondation, déjà bien occupée durant la première moitié de l'année, notamment en raison de la planification de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Les deux événements de la campagne et du gala ont pris tellement d'ampleur que ça devenait plus stratégique de les séparer. Animé par le mannequin et DJ Eve Salvaille, le gala Émergence aura comme thème cette année Tapis rouge Émergence, célébrons l'engagement et les diversités. Laurent Brault explique ainsi vouloir rajouter une certaine saveur chic à l'événement et il assure qu'il y aura bel et bien un tapis rouge. Le prix Laurent McCutcheon, nommé en hommage au président fondateur de la Fondation Émergence, sera remis au chef d'orchestre québécois Yannick Nézet-Séguin. Premier chef d'orchestre ouvertement homosexuel des Big Five, les cinq plus grands orchestres américains, celui qui assure la direction musicale de l'Orchestre métropolitain de Montréal, de l'Orchestre de Philadelphie et du Metropolitan Opera à New York, succède ainsi à des personnes comme Pete Buttigieg, Christine Taubira et Justin Trudeau en recevant ce prix, qui vient souligner le travail d'une personne qui a contribué de façon exceptionnelle à l'avancée des droits LGBTQ+, ou à la lutte contre l'homophobie et la transphobie. La Fondation Émergence voit en Yannick Nézet-Séguin un beau modèle de personne LGBTQ+, dans un milieu traditionnellement plus conservateur. Voir un chef d'orchestre aussi out et décomplexé, ça envoie un message positif, a indiqué le directeur général de la Fondation Émergence, Laurent Brault, en entrevue avec Fugue. Le prix Jeannette Bertrand, qui revient à une personne ou un organisme non LGBTQ+, qui a contribué significativement à la lutte contre l'homophobie et la transphobie, sera quant à lui remis au Musée de la civilisation à Québec. Par le truchement de son exposition unique en son genre, l'institution a su mettre en valeur les réalités des personnes trans, non-binaires et bispirituelles, visant ainsi à démystifier et à célébrer la pluralité des identités de genre. On souhaitait souligner tout le travail du musée, qui a réussi à réunir beaucoup de partenaires communautaires, ce qui n'est pas toujours évident, affirme ainsi Laurent Brault, qui rappelle la grande qualité de l'exposition. Encore. Cette année encore, deux prix coup de cœur sont remis à des personnalités ou organismes qui ont fait un acte remarquable au courant de l'année, contribuant à la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Le premier coup de cœur est décerné cette année à l'animatrice et chroniqueuse Eugénie Lépine-Blondeau et à sa conjointe Judith Séguin. Les nouvelles mamans se sont fait entendre par le CHUM et probablement d'autres institutions lorsqu'elles ont soulevé certaines pratiques non inclusives pour les familles homoparentales de la part du gouvernement ou de l'hôpital, comme la présence des appellations « mère »,« père » sur le carton d'identification du berceau de leur nouveau-né. Une situation dénoncée par le couple, et ce, même si elles se disent reconnaissantes de toute l'attention et du travail effectué par les infirmières de l'hôpital. Ça a été fait de manière polie et constructive de la part de Judith et Eugénie, et l'institution a adapté rapidement ses pratiques. C'était souligné, pense Laurent Brault. Le deuxième prix coup de cœur est remis à Radio-Canada pour le balado « Fais un homme de toi, thérapie de conversion », un projet de Jocelyn Lebeau. Diffusé sur la plateforme audio de la Société d'État, « Fais un homme de toi, thérapie de conversion », vient rapporter des témoignages de survivants des thérapies de conversion au Canada, mais aussi de spécialistes, de l'ancien ministre de la Justice, David Lametti, qui a contribué à l'interdiction de ces thérapies au pays, et même d'un défenseur de la thérapie de conversion. On était impressionné par la capacité du balado de mettre de l'avant des victimes diversifiées, et aussi de montrer le contre-discours, souligne Laurent Brault. Le prix Hommage académique, qui, tel que suggéré par son titre, est décerné à une personnalité ou un organisme du milieu académique qui a contribué à la lutte contre la LGBTQ+phobie par le biais de leurs recherches et de leur enseignement, revient cette année à la chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles. Dans un contexte où la transphobie semble de plus en plus désinhibée, l'apport d'experts comme ceux de la chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles est crucial, notamment afin de pouvoir rétablir les faits et démystifier certains préjugés. La titulaire de la chaire, Annie Pollen-Sans-Façon, aura ainsi multiplié les apparitions dans les médias dans la dernière année. Un prix engagement est également remis cette année afin de saluer le travail et l'implication d'un gouverneur ou d'une gouverneure de la Fondation Émergence. Cette année, le prix est remis à Carlos Idibuo et Solange A. Muzanganya, deux personnes qui militent depuis des décennies pour les droits LGBT au Canada et à l'international. Par exemple, Solange A. Muzanganya a cofondé en 2004 Arc-en-ciel d'Afrique, le premier organisme afro-queer du Canada. Ils ont vécu à la fois en Occident et en Afrique, donc ils sont vraiment des vecteurs de communication interculturelle, estime Laurent Brault. Ce sont deux personnes clés qui ont fait avancer les choses. Lancé l'année dernière, le prix IDI+, pour équité, diversité et inclusion en entreprise, fera aussi un retour, cette fois en partenariat avec Banque Nationale. Ce prix vise à souligner une initiative d'équité, de diversité et d'inclusion en entreprise ou dans une organisation qui a permis de rendre le milieu de travail plus inclusif et respectueux des personnes de la diversité sexuelle et de genre. L'identité du gagnant sera révélée le soir du gala. Rappelons que la Fondation Émergence œuvre contre l'homophobie et la transphobie à travers différents programmes de sensibilisation, comme la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, qui a lieu le 17 mai et dont elle est l'initiatrice. Pro-Alliés, pour l'inclusion des personnes LGBTQ+, dans les milieux de travail, Pour que vieillir soit gay, pour les droits des personnes aînées LGBTQ+, Famille choisie, qui vise à sensibiliser aux réalités des personnes proches aidantes LGBTQ+, et En finir avec les thérapies de conversion, qui vise à sensibiliser et informer afin de prévenir, déceler et intervenir contre les pratiques de conversion. Cette année, la Fondation a lancé un agenda LGBTQ-phobe, l'agenda qui fait revenir en arrière toute la société afin de souligner les idées dépassées et les discriminations auxquelles font face les personnes LGBTQ+, au quotidien. C'était « Voici les lauréats-lauréates qui seront honorés au gala Émergence », un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 24 septembre 2024 dans le magazine Fugue.
Décompte final vers Europe. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 6 octobre 2024 dans la presse. Après 20 ans d'atermoiement, la NASA devrait enfin mettre le cap sur Europe jeudi 10 octobre 2024. Cette lune de Jupiter abrite sous sa surface un océan glacé où pourrait s'épanouir la vie microbienne. Les spécialistes de la vie extraterrestre rêvent depuis 20 ans d'une mission comme Europa Clipper, qui doit décoller jeudi et survoler 49 fois la surface d'Europe, s'en approchant à moins de 25 kilomètres. C'est du moins ce qu'a déclaré la directrice du prestigieux Jet Propulsion Laboratory, JPL, de la NASA, Lori Leshin, lors d'une conférence de presse sur Europa Clipper en septembre 2024. Ce rêve est né des observations de la sonde Galileo, qui a exploré le système jovien, système qui regroupe la planète géante gazeuse Jupiter et l'ensemble des objets autour, entre 1995 et 2003. Galileo a confirmé des observations sommaires des deux sondes Voyager de 1979 concernant les ébrures sur sa surface glacée que seule la présence d'un océan souterrain pouvait expliquer. Europa Clipper va analyser les gaz s'échappant d'Europe, notamment par des geysers observés pour la première fois par le télescope spatial Hubble en 2013. Les ingrédients essentiels à la vie existent fort probablement sur Europe, a indiqué la directrice scientifique adjointe de la mission, Bonnie Burati, durant la conférence de presse. Nous allons chercher ces molécules chimiques organiques. Madame Buratti a même évoqué la détection, peu probable, selon elle, de molécules de rêve, ADN ou ARN, par la sonde. La vie sur Europe serait située autour de potentielles fosses hydrothermales comme celles qui sont alimentées par le magma terrestre au fond de nos océans. Il a fallu plus de 10 ans pour que les scientifiques convainquent la NASA de la pertinence d'une telle mission, 10 ans pour la préparer, et il faudra près de 7 ans pour qu'Europa Clipper atteigne la plus petite des 4 plus grosses lunes de Jupiter, a résumé Mme Lechine. Jusqu'à maintenant, seuls 9 survols d'Europe ont été effectués par 7 sondes. Le survol le plus rapproché, à 320 km, a été réalisé par Juno en 2022. La sonde européenne JUICE, explorateur des lunes glacées de Jupiter, fera 2 survols d'Europe à peu près en même temps qu'Europa Clipper. La fascination pour la vie sur Europe ne date pas d'hier. À la fin de son livre 2010, Odyssey 2, la suite du célèbre 2001, mise en image par Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke conclut avec cet avertissement des extraterrestres aux terriens. « Tous ces mondes sont à vous, sauf Europe. Ne tentez pas d'y atterrir. » Regardez la bande-annonce de 2010 en anglais. Transistor, le décollage est prévu le 10 octobre, avec une fenêtre de lancement qui s'étend du début septembre jusqu'au 6 novembre, en cas de pépin technique ou d'une météo défavorable. L'équipe d'Europa Clipper a eu chaud au printemps dernier quand des tests sur les transistors de la sonde ont révélé qu'ils pourraient être vulnérables aux radiations extrêmes générées par la planète géante, qui sont 20 000 fois plus intenses qu'en orbite terrestre. La NASA n'a révélé publiquement ce problème qu'au début de l'été. Nous avons réévalué les risques que posaient ces transistors qui s'usaient plus rapidement que prévu, a expliqué le chef de mission, Jordan Evans, à la conférence de presse. Nous avons procédé circuit par circuit et déterminé qu'il y avait une marge de sécurité pour mener à terme la mission primaire. Cette mission primaire doit durer 3 ans. Très souvent, les sondes spatiales durent plus longtemps que prévu et leur mission s'allonge en conséquence. La mission de Galileo, par exemple, devait durer 2 ans, mais elle a fini par durer 4 fois plus longtemps. Chaque fois qu'Europa Clipper se rapprochera de Jupiter pour survoler Europe, elle sera exposée à l'équivalent de plusieurs millions d'examens aux rayons X sur les humains, a souligné M. Evans. Océan européen. Les 9 instruments scientifiques de la sonde estimeront l'épaisseur de la croûte glacée d'Europe, dont les cratères et les fissures sont relativement récents, montrant une interaction probable avec un océan souterrain. Ce déluge d'informations scientifiques, selon les mots de Mme Buratti, permettra notamment de voir si l'océan souterrain d'Europe modifie son champ gravitationnel. Europa Clipper pourra mesurer des distorsions d'à peine quelques mètres, signe de cette influence gravitationnelle océanique. L'océan souterrain pourrait atteindre 100 km de profondeur et la croûte glacée d'Europe s'étendrait sur 5 à 100 km selon la NASA. La température maximale à la surface est de moins 160 degrés Celsius à l'équateur. L'océan pourrait être réchauffé par la chaleur causée par l'attraction qu'exerce Jupiter sur Europe, qui est 1000 fois plus grande que celle qu'exerce la Terre sur la Lune. Europa Clipper implique des géophysiciens spécialistes de l'exploration des lacs souterrains en Antarctique et en Arctique. Ces océans ont été explorés par des robots sous-marins, notamment le lac Willans, qui se trouve à 800 mètres sous la calotte antarctique. leurs données permettent de modéliser l'océan d'Europe et son interaction avec la surface glacée. Les analogues d'Europe en Antarctique et en Arctique sont très importants pour la mission, dit Nathalie Wolfenbarger, géophysicienne de l'Université Stanford, qui travaille sur le radar d'Europa Clipper. On peut, par exemple, comparer les signaux radars des lacs souterrains antarctiques ou alors les mesurer à distance et sur place des molécules de ces lacs qui se retrouvent à la surface. Le radar d'Europa Clipper peut atteindre des profondeurs de dizaines de kilomètres. Un tel robot a été proposé pour Europe, selon Mme Wolfenbarger. Ce serait une sonde qui ferait fondre la glace sur son passage. La communication se ferait par câble ou par onde. Pour le moment, un atterrisseur Europa Lander est envisagé par la NASA, mais il a été exclu du programme 2023-2032 au profit de sondes vers Uranus et vers Encelade, une lune de Saturne. Pour éviter de contaminer la surface d'Europe, Europa Clipper va s'écraser sur Ganymède, la plus grosse lune de Jupiter. Ganymède a aussi une surface glacée et un océan souterrain. Elle est aussi la seule lune du système solaire à avoir son propre champ magnétique. Elle pourrait aussi abriter la vie, mais la pression à la base de son océan pourrait être trop grande pour que des fosses hydrothermales puissent exister. Europa Clipper battra un record de panneaux solaires pour les sondes spatiales. Elles s'étendront sur 30 mètres pour capter la faible lumière du Soleil à cette distance, 5,2 fois celle entre la Terre et notre astre. La sonde Juno détenait le record précédent, avec 3 panneaux de 9 mètres. En savoir plus, source NASA, 5 milliards US, budget d'Europa Clipper, 2,9 milliards de kilomètres, distance que parcourra Europa Clipper avant d'atteindre Jupiter. 95, nombre de lunes de Jupiter. C'était « Décompte final vers Europe », un texte de Mathieu Perrault, paru le 6 octobre 2024 dans La Presse.